avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le cacao en Afrique, à quand la qualité et la profitabilité pour les planteurs? Des planteurs sans qui rien ne sortirait de terre, mais qui ne perçoivent que 6% des revenus annuels du secteur. Avec plus de 70% de la production mondiale sur le continent africain, l'Afrique est le principal exportateur de cacao, avec la Côte d'Ivoire et le Ghana en tête. Mais derrière ces performances, il y a tout de même des interrogations. En admettant que le tassement de la demande mondiale de chocolat ne soit que passagère avec la pandémie, est-ce que ce n'est pas le moment de réfléchir à des marchés de niche, à un cacao de qualité, plus équitable, mieux cultivé, sans déforester et appauvrir les sols, pour plus de durabilité? Les expériences menées sur le continent sud-américain doivent-elles semer le doute sur les choix du continent africain? On va en discuter avec celle que vous connaissez tous pour sa pédagogie lumineuse. Bonjour Claire Fage.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et merci d'être chez les 7 milliards de voisins. Également avec nous au téléphone, Michel Barrel, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes ancien directeur de recherche au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique, directeur du cabinet de conseil Kawakao et puis membre de l'Académie française de chocolat, car vous êtes un spécialiste des matières premières, cacao au café, mais aussi un passionné de chocolat, un grand gourmand. Vous avez publié Du cacao au chocolat, l'épopée d'une gourmandise chez Kwae Édition. On sera aussi en ligne tout à l'heure avec Christophe Eberhardt, ingénieur agronome qui est cofondateur d'Éthicable, une coopérative spécialisée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable, notamment des tablettes de chocolat produites à Madagascar, en Côte d'Ivoire et surtout en Amérique du Sud pour ses fèves de haute qualité et revendues dans la grande distribution en France. On entendra aussi un reportage chez un chocolatier à Ouagadougou qui transforme lui-même ses fèves de cacao, André Bayala, qui veut croire à une demande locale. Et bien sûr, vos réactions nous intéressent et vos questions au 33 7 64 45 51 41. Cacao en Afrique, à quand la qualité et la profitabilité pour les planteurs?
7 milliards de voisins
et la planète se barre.
On va démarrer avec un message d'un auditeur, Vincent, qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Mon pays est le premier producteur de cacao au monde, mais les planteurs ne vivent pas convenablement du fruit de leur travail. Depuis plus de 2 mois, leurs récoltes sont stockées. Il n'y a pas d'acheteurs. Certains planteurs disent que les acheteurs affirment ne pas avoir d'argent. Le Conseil Café Cacao, qui est chargé de réguler le secteur et venir en aide aux pauvres planteurs, trouve comme argument la Covid-19. Mais ce ne sont que des stratagèmes pour acheter le cacao à prix dérisoire et ce sont les paysans qui en souffrent. Claire Fage, spécialiste des matières premières sur RFI, dites-nous un peu ce que vous pensez du message de Vincent et comment se porte le cacao en Afrique avec la pandémie.
Disons que peut-être que la vérité est entre les deux, c'est-à-dire que effectivement la demande a beaucoup freiné à cause du Covid. Toutes les chaînes de transformation étaient perturbées. On sait que la restauration consomme beaucoup de chocolat, donc ces restaurants sont fermés en ce moment. Donc effectivement, et la consommation ne s'est pas complètement reportée sur la demande des particuliers à la maison, les tablettes, etc. Mmh. On sait qu'on n'a pas eu une période de Noël très faste pour les chocolats. Mmh. Donc c'est compliqué effectivement, alors que au même moment la Côte d'Ivoire et le Ghana demandaient un différentiel de revenus décent, ce qu'on appelle le LID en anglais,
pour une prime spéciale pour assurer un revenu décent aux planteurs.
Voilà, ça a été l'issue d'un bras de fer avec l'industrie du cacao et du chocolat depuis 2019, et ils avaient obtenu ce différentiel de revenus décents. Et bim, le Covid est arrivé. Donc effectivement, là, les industriels rechignent à payer cette prime supplémentaire. Et on voit que effectivement, il y a une espèce de compromis qui est en train de se trouver là actuellement. La Côte d'Ivoire est en train de lâcher sur sa propre prime de qualité. Parce qu'on sait qu'un cacao, il est payé par rapport au prix du marché à terme, que ce soit Londres ou New York. Et le chocolat ivoirien, il a telle prime par rapport au prix à terme. Le chocolat équatorien, il a telle prime par rapport... ou une décote par rapport à ce prix-là. Et en ce moment, le chocolat ivoirien, il a une décote par rapport au prix à terme. Donc ça veut dire que la Côte d'Ivoire, elle a un peu cédé quand même sur ces exigences de prix.
Parce que les récoltes attendent à l'heure actuelle.
Et elles sont très abondantes.
Et ne sont toujours pas chargées sur les bateaux via notamment le port de San Pedro.
Oui, il y aurait 20% de retard d'embarquement depuis janvier.
Michel Barrel, finalement, la structure actuelle, on s'en rend compte, ne fonctionne pas bien pour les petits producteurs. Est-ce que la pandémie met en lumière plus que jamais ces dysfonctionnements ?
Oui, je pense que la situation actuelle n'est pas très favorable, effectivement. Vous l'avez souligné dans l'intervention précédente. Au niveau de la petite consommation des chocolats, des ganaches, etc., haut de gamme, il n'y a pas trop de problème. Les gens, ils ont envie de se faire plaisir dans un moment où, justement, il y en a besoin. Mais par contre, tout le chocolat de masse, c'est lui qui souffre. Et c'est quand même 90% de la production mondiale. Alors, que faire ? Le chocolat, il est comme les autres matières premières et il souffre de la situation. Mais c'est vrai que certains pays producteurs de grande masse, vous avez cité la Côte d'Ivoire, subissent des décotes parce qu'ils produisent des qualités de cacao qui sont réputées inférieures au marché mondial.
Juste pour être pédagogique pour nos auditeurs qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, tous nos auditeurs ne connaissent pas par cœur le marché du cacao comme les Ivoiriens, mais la Côte d'Ivoire, c'est plus de 40% de la production mondiale.
De 40% de la production mondiale, oui. Oui, donc c'est énorme, hein, c'est presque la moitié. Et c'est un cacao basique, un cacao de masse qui sert à faire des barres, à faire de la poudre, à faire du chocolat au lait, à faire des choses comme ça, qui ne demandent pas une excellence. Mais il se trouve quand même que les pays qui produisent des cacaos fins ont des surcotes et les producteurs vivent relativement bien par rapport à par rapport à un producteur ivoirien. Il y a une décote d'environ 5% sur le cacao ivoirien, moins 5% par rapport au Ghana.
Est-ce que les planteurs sud-américains, par exemple, avec leur petite production, résistent mieux à la baisse de la demande mondiale ?
Écoutez, les petits producteurs sud-américains produisent en général, enfin beaucoup d'entre eux produisent du cacao haut de gamme. C'est le continent américain. C'est là d'où vient le cacao, c'est le continent d'origine, et c'est là où il y a quand même les meilleurs cacaos à l'heure actuelle. Il y a des exemples, hein. Le Bahia, par exemple, la région de Bahia, qui a fait d'énormes efforts pour produire de la qualité.
Au Brésil,
ils ont une surcote de 40%. Trinidad, c'est 50% au-dessus du cours du Ghana. Donc, vous voyez, c'est les gens qui font du haut de gamme, ils s'en sortent relativement bien. Moi, j'ai eu une expérience en Côte d'Ivoire. J'ai eu une tentative avec un acteur ivoirien pour faire de la qualité. Et on se heurte à une décision politique. La Côte d'Ivoire, à l'heure actuelle, a envie de faire du cacao de masse, et c'est la politique de ce pays. Et les gens qui veulent faire de la qualité, comme ils ne peuvent pas vendre directement à un acheteur qui serait intéressé par du cacao spécial, ils sont obligés de passer par le conseil café cacao, qui est le vendeur, et il y a des risques de mélange, etc. Donc voilà, il y a tout ça à revoir.
Alors,
vous parliez de mélange,
Michel Barrel, pardonnez-moi de vous interrompre, mais pour qu'on comprenne bien, pour que nos auditeurs comprennent bien, vous parliez d'une qualité médiocre, en tout cas une qualité de masse du cacao ivoirien, d'une qualité courante, hein, en tout cas pas un cacao haut de gamme. Vous pouvez nous expliquer grosso modo très rapidement les différences entre les fèves ?
Alors, le cacao haut de gamme, c'est des cacaos qui vont donner des chocolats avec des arômes particuliers de fleurs, de fruits, de caramel, de bois sec, etc. Bon, donc, qui vont créer des émotions chez le consommateur. Le cacao courant...
Donc, le criollo et le trinitario.
Oui, mais moi, je suis persuadé que chacun a sa chance. Hein, mais voilà, il faut y mettre un petit peu de savoir-faire, de travail, d'efforts. Et je suis persuadé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des terroirs qui sont tout à fait intéressants, même avec des cacaos de type Forastero, dans la mesure où Forastero, on admet qu'il existe encore, mais bon, c'est pas le sujet. Mais des cacaos au niveau variétal qui sont des cacaos relativement courants, je suis sûr qu'il y a des terroirs en Côte d'Ivoire qui existent et qui pourraient faire du bon cacao. Mais encore faut-il que ce soit décidé.
Alors, revenons aux petits producteurs qui, pour la moitié, vivent sous le seuil de pauvreté selon les chiffres de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Claire Fache, dans une de vos chroniques, il y a deux jours, vous disiez que les négociants ivoiriens se plaignent de ne pas avoir accès aux fèves de Côte d'Ivoire à cause de la mainmise des multinationales sur la ressource en fèves et demandent aux régulateurs nationaux de leur garantir une part minimum de la récolte. Mais pour les paysans producteurs, est-ce que c'est une simple bataille dans la guerre des intermédiaires et des négociants, ou est-ce que les paysans pourraient tirer profit d'un marché qui laisserait plus de place aux négociants ivoiriens, finalement, où ça ne les concerne pas ?
Je pense que c'est à double tranchant, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup d'intermédiaires, on le voit en ce moment, il y a des intermédiaires peu scrupuleux qui peuvent court-circuiter finalement l'approvisionnement général, puisqu'en ce moment, les multinationales freinent les achats et ces intermédiaires peu scrupuleux peuvent en profiter pour au contraire demander aux petits producteurs de leur vendre leurs fèves encore moins cher que le prix minimum, puisqu'ils n'arrivent pas à écouler leur production. Donc c'est un peu à double tranchant. Après, je pense qu'en fait, il pourrait y avoir une diversification de la production ivoirienne, ghanéenne, avec des niches de qualité différentes. C'est certain. Et il n'y a pas de raison que la Côte d'Ivoire, d'ailleurs, Étiquable fait des tablettes de chocolat ivoirien qui sont excellentes.
On va en reparler.
Il y a du bon chocolat en Côte d'Ivoire.
Alors,
et au Ghana.
Il y a la question de la qualité, il y a la question de tout le circuit avec les multiples intermédiaires. Claude est en ligne avec nous, nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions à nos invités ou témoigner de la situation. Claude, bonjour, vous êtes à Abidjan.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes à Abidjan, c'est bien ça ?
Oui, je suis à Abidjan.
Vous travaillez dans la filière cacao ?
Oui, bien, j'ai été le responsable d'une entreprise de prestation de main-d'œuvre temporaire sur le site d'une société exportatrice de cacao 6 au port d'Abidjan.
Oui. On vous écoute, Claude.
Bien, pour ce qui concerne le cacao en Côte d'Ivoire, il faut dire que le cacao est géré par la filière café-cacao. Bon, le cacao est géré par le conseil café-cacao, un organisme public dont la mission consiste en la régulation, la stabilisation et le développement de la filière. C'est lui qui, entre autres, agrée les sociétés exportatrices et qui fixe le prix d'achat au kilogramme pour chaque campagne.
Oui.
Il faut noter que l'organisme est très pointu sur la qualité et contraint les paysans à proposer du cacao de qualité. Cependant, et cela est récurrent, les paysans sont très souvent confrontés à des acheteurs véreux qui bochent, propose moins que le prix fixé par le conseil café-cacao, au détriment, bien entendu, du planteur qui vit précairement parce que mal rémunéré. Enfin, quant à la transformation, c'est vraiment à petite échelle. Environ 10% seulement de la production nationale est transformée localement. Et cette transformation, elle est assurée par un chocolatier français. Pour le reste de ce qu'on nous propose en surface, c'est du chocolat importé de France ou de Suisse, mais qui reste hors de portée de l'ivoirien ordinaire.
Mais alors finalement, où est-ce que vous voulez en venir, Claude ?
Bien, j'aimerais bien que, bon, pour ma part, j'aimerais bien que le conseil cacao soit mieux structuré, aller sur le terrain et mieux organiser la vente du cacao pour ne pas que les paysans soient perdants.
Merci de nous avoir appelé, Claude. Alors, concernant le pourcentage de cacao transformé,
oui, en fait, il y a une confusion, je pense. Il y a 25% du cacao ivoirien qui est transformé localement, mais ça comprend aussi les semi-produits, c'est-à-dire, c'est pas ceux qui sont consommés par les particuliers. Il s'agit des produits intermédiaires, donc la masse, la poudre et le beurre de cacao, qui sont donc des produits intermédiaires qui servent ensuite, qui sont exportés de Côte d'Ivoire, et qui sont achetés par les chocolatiers pour faire ensuite tous leurs produits chocolatés.
Quand on parle donc de transformation en Côte d'Ivoire, il ne s'agit pas de transformation jusqu'au chocolat, bien
évidemment.
Il
y en a, mais effectivement,
c'est extrêmement minime.
Encore plus.
Concernant les achats Borchamps, Claire Fage,
oui,
qu'est-ce que ça veut dire déjà ?
Alors, l'achat Borchamps, c'est comme son nom l'indique, ce sont donc des intermédiaires, des pisteurs qui vont jusqu'à la plantation du paysan pour lui acheter sa récolte de fèves sans attendre effectivement qu'il livre ou à la coopérative et qu'ensuite les acheteurs traditionnels lui prennent ses fèves. Et parfois, là en l'occurrence, étant donné que les fèves ont du mal à être commercialisées parce que les industriels font un petit peu font les difficiles parce qu'ils estiment que les prix sont trop élevés et qu'ils ont un marché difficile pour écouler leur propre produit, eh bien, certains en profitent, comme je le disais à l'instant, pour payer les paysans qui ont hâte d'avoir de l'argent souvent pour faire leurs propres achats pour les enfants, pour l'école, etc. Ils ont besoin de liquidités, donc ils bradent leurs fèves en dessous du prix minimum qui est un minimum légal imposé par le Conseil du Café Cacao. Et c'est pas une première, c'est déjà arrivé dans l'histoire. Mais il y a eu aussi des époques en 2015-2016 où les fèves valaient tellement cher qu'il y avait des braquages de camions de fèves de cacao. Donc voilà, tout ça dépend aussi du marché.
Oui, et en ce moment, effectivement, la tendance n'est pas très bonne pour les planteurs et pour les intermédiaires qui se font finalement squeezer, hein, on pourrait dire ça d'une certaine façon, les petits intermédiaires locaux lorsque on cherche à raccourcir la filière dans l'intérêt des planteurs qui sont eux-mêmes étranglés. Merci beaucoup, Claude, de nous avoir appelés. Globalement, Michel Barrel, les prix à la tonne, quand même, se sont lentement affaissés depuis les années 60. Du cacao. Comment se fait-il que aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'on a trop produit sur le continent africain ? Est-ce qu'il faut revoir la façon de penser la production ?
Vous savez, le cacao, c'est un des produits les plus spéculés au monde à l'heure actuelle. Donc forcément, il y a des fluctuations énormes parce que, bon, je ne suis pas un économiste de la bourse, pas un économiste du tout d'ailleurs, mais il y a des gens qui parient sur la hausse, des gens qui parient sur la baisse. Je ne pourrais pas vous expliquer les fonctionnements, mais je sais que ça existe. Et il y a des moments où le cacao est très élevé, des moments où il est très bas, et il y a eu différents accidents. Bon, aujourd'hui, il est quand même à la cour, il est autour de 2000 euros la tonne à peu près, ce qui est un coût relativement raisonnable par rapport à ce qu'on a vécu dans l'histoire du cacao.
Il a été à 6 000, 8 000 dollars la tonne dans les années 70. On a l'impression que c'était un autre siècle, en effet.
Mais... C'était un autre siècle, oui, c'était une autre époque. Mais voilà, il y a eu quand même un effondrement en 2000 parce qu'il y a eu la libéralisation de la filière, hein, la filière cacao qui était sous la domination des caisses de stabilisation, pas uniquement en Côte d'Ivoire, hein, mais aussi au Cameroun, au Ghana, etc. Il a été décidé notamment par les grands bailleurs de fonds, Banque mondiale, le Fonds monétaire international, etc., qui aident ces pays-là. Ils ont demandé que les filières soient privatisées. Et donc que l'État, qui dirigeait les caisses de stabilisation, ne soit plus l'acteur principal dans cette affaire-là. Et donc du jour au lendemain, les millions de petits planteurs se sont retrouvés tout seuls face aux grandes multinationales du cacao et face à la spéculation. Et les cours se sont effondrés. Donc moi je prends un peu ce point-là, c'était décembre 2000, comme point de référence sur une nouvelle ère cacao, puisqu'avant, il y avait des cours qui étaient quand même, vous l'avez cité dans les années 70-80, qui étaient beaucoup plus élevés. Bon, depuis, eh ben, il y a eu quand même beaucoup de hausses et de bas, parce qu'il y a eu les troubles en Côte d'Ivoire, qui ont quand même beaucoup affecté la filière cacao. Il y a eu l'augmentation du cours des matières premières dans les années 2013-2014. Il y a eu la crise économique qui est intervenue, il y a eu des risques, des craintes de pénurie. Maintenant, on est avec le problème du Covid. Donc, tout ça, ça fait qu'il y a des hauts et des bas dans la filière cacao et que les gens qui savent maîtriser ces variations, qui savent les utiliser plutôt, eh ben, ils continuent à se faire des bénéfices. Malheureusement, ce n'est pas le planteur qui en fait le... qui gagne là-dedans.
Alors justement, on va reparler de la profitabilité pour les planteurs, le cacao en Afrique. À quand cette profitabilité pour les planteurs? Est-ce que c'est la qualité finalement, la montée en gamme qui pourra garantir une profitabilité pour les planteurs? Vous pouvez bien sûr nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Peut-être qu'il faut regarder vers d'autres pays qui produisent beaucoup moins et qui vendent beaucoup plus cher à la tonne, notamment sur le continent sud-américain. Je crois aussi qu'il y a des expériences intéressantes, notamment en Malaisie. Vous nous appelez 33 7 64 45 51 41. Yeah, my shine, train, train, walk, 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 walk. My joy can't get what you found, no. In bell joke by when you not there. Boko meto, hey, I fell. In bell joke by when you not there. We mo be get plenty friends, baby. Get where I gone now. Cut all up to the mall. Bows for my Polaroid. Can't go buy us, so me more, baby. You won't trap me, yeah. Trap me, say, who dumb you. Spend my last in your mama. You out with my drone. You don't try me, yeah. Try me, say, with the mule. Spend my last in your mama. Fly you out with my drone. Yeah. Baby, give me your love, make her take control. Yeah. Yeah. If you not be me, girl, then go control. Yeah. Yeah. I say, all for you, girl, baby, all for you, girl. You know, say, a bad man die for you, girl. Jolly say, I need you in my life. Mama, fly you out with my drone. You don't try me, yeah. Try me, say, with the mule. Spend my last in your mama. Fly you out with my drone. De voisins, on est en direct sur RFI, c'est la même gang Reveal chez 7 milliards de voisins. Et aujourd'hui, on s'intéresse au cacao, notamment au cacao sur le continent africain, qui est le continent premier producteur mondial de cacao, avec la Côte d'Ivoire en tête, entre 40-45% de la production mondiale, derrière le Ghana, le Cameroun. Claire Fage, je parle sous votre contrôle.
Oui, mais l'Afrique produit 60% à peu près du cacao mondial, donc oui. C'est énorme.
Et on a aussi d'ailleurs du cacao qui est produit au Gabon, au Togo, à Madagascar, à Sao Tomé, avec des qualités très diverses. On en parle aussi avec vous, Michel Barrel, ancien directeur de recherche au CIRAD, le Centre de Recherche Agronomique. Et nous sommes aussi en ligne avec Christophe Eberhardt, qui est ingénieur agronome, cofondateur d'Éthicable, coopérative spécialisée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Bonjour à vous, Christophe Eberhardt.
Bonjour.
Vous produisez notamment des tablettes de chocolat, produites à partir de fèves de cacao de Madagascar, de Côte d'Ivoire. Quand on achète vos tablettes qui sont distribuées dans les hypermarchés en France, on sait exactement d'où viennent les fèves. Ce ne sont pas des mélanges. Historiquement, vous travaillez surtout avec l'Amérique latine pour votre gamme de tablettes de chocolat. Vous pouvez nous expliquer pourquoi et comment vous avez été amené depuis quelques années à vous intéresser aussi à la Côte d'Ivoire, qui n'est pas pourtant un producteur de fèves haut de gamme.
Oui, on a démarré au départ, c'est vrai, avec l'Amérique latine, comme beaucoup d'entreprises de commerce équitable. C'est vrai que le commerce équitable est peut-être plus connu, plus avancé en Amérique latine. Il y a de nombreuses coopératives importantes. C'est aussi L'existence de ces coopératives avec des projets sociaux forts qui ont fait que le commerce équitable a été très fort là-bas. Puis pour les types de cacao aussi, en Amérique latine, on a ces cacaos donc parfumés, aromatiques, fruités, floraux, etc., en Équateur, au Pérou. Et puis, c'est vrai qu'on s'est posé des questions à un moment donné en disant que c'était quand même pour nous intéressant d'aller là où il y a, comme vous le disiez, la plus grande production de cacao, là où se trouve le marché de masse en Côte d'Ivoire, où il n'y avait pas de cacao bio. Il a commencé il y a 10 ans, en 2010. On s'est dit pourquoi pas faire du cacao bio également en Côte d'Ivoire. Le cacao de Côte d'Ivoire, en tant que chocolatier, nous intéresse aussi parce que ces notes chocolatées fortes, intenses du cacao d'Afrique de l'Ouest est quelque chose qu'on aime bien aussi. Hein. Le cacao de Côte d'Ivoire peut être très bon aussi quand il est bien transformé, quand il est bien travaillé.
Donc ce ne sont souvent pas les mêmes fèves, hein, on va bien le rappeler. C'est du Forastero à la différence de l'Amérique du Sud où c'est plutôt du Trinitario.
Voilà, c'est les variétés principalement. Et puis, mais en même temps, ce cacao, il est souvent mélangé et enfoui dans des produits industriels dont on ne connaît pas la provenance des cacaos. Mais lorsqu'on fait, comme ça a été le cas, un 74% de cacao, une tablette de 74% de cacao origine Côte d'Ivoire, eh bien, voilà, ça donne quelque chose de très bon. C'est un cacao d'une seule coopérative.
Je confirme, j'en ai chez moi en ce moment, il est excellent.
Voilà, de votre marque. Et effectivement, c'est vrai qu'on découvre finalement un chocolat à partir de fèves ivoiriennes qu'on ne connaissait pas du tout, hein, Claire.
Oui, mais c'est cette force qui peut être intéressante aussi, un petit peu comme on peut avoir de très bons cafés Robusta ou de très bons mélanges Arabica Robusta. Après, c'est une question d'équilibre.
Comment vous travaillez concrètement avec les producteurs pour qu'ils gagnent davantage ?
Ben, c'est le principe du commerce équitable, c'est d'avoir un prix minimum garanti, donc un prix plutôt rémunérateur. Les prix du cacao sont plutôt bas sur le marché mondial. Ils ont baissé dans les dernières années, à partir de 2017. Le prix en bourse de New York aujourd'hui est autour de 2 600 $ la tonne. Nous, notre prix moyen est de 4 200 $ la tonne. Vous voyez, donc on n'est pas au double, mais presque du prix du marché. C'est important d'avoir un prix rémunérateur qui permette aux coopératives, parce qu'on travaille, le commerce équitable ne travaille qu'avec des coopératives organisées, donc d'avoir à la fois un prix plus rémunérateur aux paysans, aux producteurs, pour qu'ils puissent avoir un revenu plus correct, et puis également pour que la coopérative puisse avoir plus de marge et pouvoir assumer son travail d'accompagnement et de formation des producteurs.
Est-ce que les planteurs sont mieux rémunérés parce que c'est du cacao haut de gamme, certifié, équitable et bio, ou est-ce qu'ils gagnent mieux parce qu'il y a aussi moins d'intermédiaires ?
Je pense que c'est une conjonction de tout cela. C'est du cacao bio, donc le bio qui consiste à cultiver le cacao sans produits chimiques, sans pesticides, sans insecticides, permet d'avoir un surprix. Hein. Bon, il n'est pas toujours très élevé, il est souvent de 10%, 20%. En général. Et puis, c'est du commerce équitable, donc ça permet d'avoir aussi une partie du prix qui est destinée à financer des projets collectifs. Et puis, c'est aussi un cacao d'une seule origine, c'est un cacao de qualité qui est transformé par des coopératives qui font un travail aussi d'excellence en termes de fermentation et de séchage du cacao, vous en avez parlé également. Et donc, ça permet d'avoir, de révéler vraiment les qualités intrinsèques de ce cacao et ça permet de présenter aux consommateurs donc, des produits de pure origine, ce qui, vous le disiez, c'est quelque chose d'assez rare.
Mais en général, c'est les prix, vous les payez plus cher, hein, ces fèves, mais est-ce que réellement, au niveau du planteur, lui-même vend plus cher alors qu'il a produit moins parce qu'il n'a pas mis d'intrants chimiques, par exemple ? Est-ce que c'est quand même plus rentable pour lui ?
Alors, c'est pas vraiment exact de dire que le planteur produit moins parce qu'il ne met pas de produits chimiques en réalité. Les gens en Côte d'Ivoire par exemple ou à Madagascar qui travaillent en mettant des composts sur leur plantation, qui font un travail de taille, etc. ou d'agroforesterie en réintroduisant les arbres dans les plantations, parviennent à avoir des rendements parfois même meilleurs que ce qu'on peut avoir dans les plantations conventionnelles. Et pour répondre sur la question des prix, évidemment, oui, le producteur, enfin, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, par exemple, le cacao de cette coopérative est à ses prix d'exportation dont je vous parlais, donc de 4 000 $ la tonne, le cacao est payé 1 800 francs CFA à la coopérative, ce qui lui permet d'avoir un prix largement supérieur à ce qu'on peut avoir sur le marché actuellement.
Pourquoi la Côte d'Ivoire, Claire Fage, il faut aussi le préciser, ce n'est pas les mêmes modes de culture hein, du cacao, si on est en Côte d'Ivoire, si on est à Madagascar, si on est à Sao Tomé, si on est sur le continent sud-américain. En Côte d'Ivoire, on a coupé les arbres pour planter des cacaoyers.
Oui, c'est ça, c'est que le cacao a progressé à la faveur de la déforestation et que c'est vrai que c'est une culture qui est liée aussi au mouvement de population en Afrique de l'Ouest. Et on a déforesté parce que c'est là que quand le sol est encore très riche, que le cacao pousse le mieux et puis ça s'épuise au fil des années, donc on va déforester un petit peu ailleurs. C'est comme ça qu'on a mité petit à petit les forêts en Côte d'Ivoire et qu'on s'est rendu compte d'ailleurs avec effroi en 2017 ou 2018 que si la production de la Côte d'Ivoire était aussi grande, c'était bien aux dépens de la forêt que ça s'était fait et un petit peu sans contrôle. Donc et ça se retourne contre la Côte d'Ivoire parce que maintenant il y a une surproduction. Et c'est ce qui fait qu'on a un prix qui est faible au niveau mondial. Parce qu'on peut pas, il ne faut pas rêver non plus. Tous les Ivoiriens ne pourront pas faire du chocolat fin, ni du chocolat équitable, de la marque Étiquable. Ouais. Parce que.
Mais alors, il y a d'autres marques,
pas
évidemment.
De demande.
Il y a énormément de marques aujourd'hui qui se développent
ce cacao.
Partir de ces certifications, hein, bien
donc,
sûr.
Il faudrait que le prix global remonte et il faudrait donc que la production africaine diminue et qu'elle soit peut-être mieux traitée quand elle est récoltée.
Mais une dernière question sur la certification et après on va revenir à la cohabitation envisageable ou pas de deux filières, filière haut de gamme, filière équitable et une filière de masse. Hein. Mais sur la certification, Christophe Eberhardt, vous commercialisez donc du chocolat de différents pays, Côte d'Ivoire, mais aussi Madagascar, Haïti. Je vais peut-être vous poser une question naïve, mais quand vous proposez un chocolat de qualité, certifié, équitable, venant bio, hein, venant d'Haïti, un pays où il n'y a plus d'État, où plus rien ne fonctionne normalement, comment est-ce qu'on peut certifier que les paysans sont rémunérés correctement sans être rançonnés par des intermédiaires ?
Eh bien parce qu'il y a une coopérative de producteurs, qui est la FICATO, au nord d'Haïti, qui est une organisation qui existe maintenant depuis 20 ans et qui est structurée, qui fonctionne de manière démocratique, qui a des élus et qui résiste. Qui résiste, qui se bat, qui améliore la qualité de son cacao. Voilà, ce sont des partenaires qu'on connaît depuis des années, à qui on rend visite. C'est des gens qui défendent une petite agriculture paysanne, une fermentation, une transformation de qualité, et qui sont les garants de la transparence dans cette filière bioéquitable.
Michel Barrel, c'est intéressant parce qu'on se dit que si Haïti arrive à faire ça, la Côte d'Ivoire, un pays ultra organisé pour sa filière cacao, est-ce qu'on pourrait imaginer pour l'avenir deux filières, un cacao pour une production de masse et puis un cacao petite production, qualité, prix élevé pour des pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana ?
Je crois que le marché tend vers une augmentation du marché avec effectivement une filière haut de gamme, une filière plus cacao courant. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, je me pose la question, mais on le voit bien hein, quand on regarde les différentiels qu'il y a sur les cacao, sur les pays qui produisent du haut de gamme. Hein, je vous parlais tout à l'heure de Trinidad ou de certaines régions du Brésil qui sont à 50-40% au-dessus du cours du Ghana, et puis d'un autre côté, des pays qui ont du mal à gagner leur vie. Alors, ce que je voudrais dire quand même, c'est que ça ne concerne pas que le cacao, je crois que toutes les matières premières sont dans ce cas-là, c'est que celui qui est à l'origine de la production, c'est celui qui tire le moins bien son épingle du jeu. Le producteur de cacao, il touche 6 à 7% du prix de la tablette que vous payez dans votre supermarché. Alors que
pour citer qu'un des intermédiaires... Justement, la question, Claire Fage a évoqué la question de la semi-transformation des fèves de cacao en Côte d'Ivoire, hein. Mais pourrait-on imaginer une transformation totale ? Une question nous est posée par une auditrice. On l'écoute, elle a posté son message sur WhatsApp.
Je suis Aziza, je suis congolaise, j'habite au Burundi, mais j'ai déjà goûté du chocolat de Walikale à l'est de la RDC et aussi du chocolat qui provenait de Goma. J'ai trouvé que c'était vraiment très bon et très bien raffiné, seulement je ne sais pas exactement quels sont les soucis et les défis auxquels ils font face. J'aimerais bien apprendre. Merci.
Voilà une question pour le spécialiste du cacao et du chocolat, Michel Barrel. Le chocolat de RDC, moi je ne le connaissais pas, il a un avenir ?
Écoutez, je ne le connais pas non plus, donc je ne peux pas me prononcer.
On parle bien de chocolat et pas de cacao. Hein.
Mais du chocolat, oui. Mais bon, alors, il y a plusieurs choses dans ce problème. C'est que d'une part, les
populations... En quelques mots, hein, Michel Barrel, s'il vous plaît.
Notamment en Afrique, ne sont pas habituées à consommer du chocolat. Et que nous-mêmes, quand il fait chaud en plein été, on n'a pas très envie de manger du chocolat. Donc, il y a un problème quand même à ce niveau-là. Ensuite, si on veut vraiment se faire plaisir, et il y a des amateurs aussi dans tous les pays producteurs, il faut voir comment il est transformé et qu'est-ce qu'on appelle la qualité. J'entendais tout à l'heure définition de la qualité en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la qualité, ça veut dire pas de défaut, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura des notes particulières. Donc voilà, il y a toute cette difficulté-là. Maintenant, je pense qu'il y a dans l'avenir une possibilité pour que certains acteurs de la filière cacao, et j'en connais en Côte d'Ivoire, produisent des chocolats haut de gamme, mais ce sera des toutes petites productions.
Alors justement, on parlait de la transformation. Je vous propose, puisqu'on arrive bientôt au terme de cette émission, un reportage à Ouagadougou, au Burkina Faso, à la rencontre de Chef André, qui est artisan chocolatier. André Bayala a réalisé un rêve un peu fou, parce que personne n'aurait imaginé qu'un jour on fabriquerait du chocolat au Burkina Faso. Tout commence en 2015, il est sacré champion d'Afrique du chocolat, oui ça existe. Hein. Il part ensuite se former à Genève, avant d'ouvrir sa propre chocolaterie. Raphaël Constant l'a rencontré dans sa boutique quartier Ouaga 2000, évidemment un quartier haut de gamme, où dès l'entrée dans le laboratoire, les effluves de chocolat, les arômes de beurre de cacao viennent titiller les narines.
Voilà, nous sommes dans le laboratoire. Et ici, nous avons une machine qu'on appelle une tempéreuse et qui permet justement à mon chocolat d'être maintenu dans les conditions idéales de travail.
Voilà. Donc, dans cette machine, on voit une énorme marmite de chocolat qui est en train de fondre, c'est ça ?
Oui. Et ce qui nous stabilise notre chocolat à 31 degrés et qui voilà, nous permet d'être utilisé dans des conditions idéales. Et là, nous avons du noir 54%, dosé à 54%. En général, on le laisse sur 24 heures pour qu'il soit totalement en maturité et on commence à le détailler aux différents bonbons. Quand on rentre dans le laboratoire, il faut toujours goûter du chocolat avant de partir.
Avec plaisir.
Ça, c'est la tradition chez nous. Voilà.
Là, il est encore sous forme liquide.
Voilà, il est vraiment liquide. On continue d'ajouter encore le beurre de cacao pour davantage le liquéfier.
Je goûte. Délicieux, ouais. Onctueux. Alors, on passe au côté boutique.
On va ressortir du laboratoire. Et là, maintenant, nous sommes en face de la vitrine de bonbons, de chocolat. Nous avons des différentes tablettes. Également, nous avons des arômes, des parfums, des arômes de chez nous. Le chocolat à base de mangue, à base d'arachide, à base de gingembre, de sésame. Et c'est justement cette touche africaine, cette touche burkinabé qui donne une particularité à notre chocolat.
Alors justement, Chef André, comment on le consomme le plus, le chocolat, ici ?
Ben, il faut dire que déjà, la consommation mensuelle du burkinabé en chocolat est d'une demi-tonne par mois au niveau national. Déjà, il y a la poudre de cacao qui est beaucoup consommée ici, en boisson froide ou chaude le matin, surtout sans sucre. Il y a également le chocolat à base de sumbala, qui est une épice très bien utilisée ici. Et ce chocolat, lui, il est beaucoup consommé par les expatriés parce qu'ils ont tendance à retrouver le goût du camembert.
Au fromage ?
Au fromage camembert. Et souvent, les expatriés qui viennent le prendre, ils se posent la question, comment on arrive à introduire le fromage dans le chocolat ? Mais bon, ça, c'est le secret de la maison. Il y a également le chocolat à base de piment et de bissap, qui est beaucoup consommé. Et le moringa, ça, c'est la meilleure de nos ventes.
Et c'est justement une consommation d'expatriés ou plutôt de burkinabés de chocolat ?
Là, il faut dire que c'est beaucoup plus de burkinabés qui consomment le chocolat ici. Actuellement, nous avons un taux très réduit des expatriés au Burkina Faso. Non seulement à cause du Covid et de la situation sécuritaire, la plupart des expatriés sont rentrés, surtout les familles. Mais la consommation n'a pas changé. Donc du coup, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, c'est les Africains qui consomment leur chocolat. Ce résultat nous a amené aujourd'hui à aller maintenant dans la production du cacao. Il faut dire que nous sommes au stade primaire, mais nous voulons produire au Burkina Faso une variété qui vient de Madagascar. Vous savez que Madagascar, ils ont le meilleur cacao au monde. Et donc nous voulons cette variété dans notre pays pour pouvoir le développer.
Alors, chef André, où est-ce que vous achetez vos fèves de chocolat? Où est-ce que vous fournissez?
Alors, le premier producteur qui nous fournit, c'est la Côte d'Ivoire, justement. Nous avons également le Ghana. La meilleure fève, qui est le Criollo, qui se trouve à Madagascar. Et nous avons également le cépage de l'Amérique latine, qui est le Trinitario. Et au bas de l'échelle, nous avons le Forestero, qui est celui de la Côte d'Ivoire et du Ghana, le cacao africain. Mais ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas que seulement l'importation que nous voyons, mais nous voulons en même temps permettre aux Africains de transformer ce cacao. Vous prenez par exemple la Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui est le premier producteur mondial, mais en même temps qui exporte la plus grande partie de son chocolat par faute de transformation. Pour répondre à cette demande de la Côte d'Ivoire, que nous sommes en train d'installer le centre de formation de transformation du cacao en chocolat ici au Burkina Faso.
Et pourquoi vous choisissez les fèves de cacao de la Côte d'Ivoire?
C'est pas vraiment un choix, c'est une contrainte parce que c'est là où je peux avoir facilement ma matière première pour travailler. Mais en même temps, il faut dire que ici, le Burkinabé n'a pas encore bien cerné la différence des cépages. Donc ce qui fait que même si vous lui donnez aujourd'hui du chocolat qui vient d'une fève de l'Amérique latine, il ne verra pas vraiment la différence. Vous savez, tout le monde aspire à l'émergence. Et quand on parle d'émergence, il faut voir du côté également produits agricoles. C'est justement ces produits agricoles qui vont permettre à notre économie de se développer.
Moi, surtout que le Burkina repose beaucoup sur l'agriculture.
Exact. Et moi, je ne cesse de le crier. Notre avenir sera basé sur la transformation de nos matières premières dans nos pays. Que les gens arrêtent d'exporter les matières premières. Que nous-mêmes, nous les transformons et nous ajoutons une certaine valeur. Donc, je voudrais juste interpeller les autorités qui investissent dans le monde agricole, qui permettent au Burkina Faso d'être un producteur de cacao et un cacao de qualité. C'est possible et nous pouvons le faire. Voilà, voici mon dernier mot. Merci.
Christophe Eberhardt, vous êtes le fondateur de cette coopérative spécialisée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable, étiquable. Comment vous réagissez? Parce que vous-même, vous transformez du cacao en chocolat, je crois, au Pérou.
Oui, bah c'est formidable d'entendre ça, c'est encourageant. C'est vrai que en Amérique latine, par exemple, il y a un véritable engouement aujourd'hui pour la consommation de chocolat. Il y a de multiples fabricants locaux. Par exemple, à Quito, en Équateur, dans une épicerie, dans un supermarché, vous trouvez des tablettes de chocolat et les gens les apprécient.
Mais il fait
bien
moins
qu'en
chaud.
Afrique, ça va arriver
il fait
également.
Moins chaud, peut-être, parce que Michel Barrel évoquait le climat. Et c'est vrai que pour nous tous, quand il fait très chaud, on a moins envie de manger du chocolat.
Oui, c'est vrai que les pays qui sont en altitude où il fait un peu moins chaud, c'est plus facile. Mais on sent quand même qu'il y a des initiatives, ce reportage le montre, il y a plusieurs initiatives en Côte d'Ivoire, etc. Aujourd'hui, on trouve des équipements aussi de petits modèles plus faciles pour torréfier, pour broyer, pour pencher. Et c'est intéressant de voir qu'il puisse y avoir ces transformations locales et qu'on puisse développer le goût de la consommation du chocolat, qu'on puisse le faire découvrir dans les pays producteurs également. C'est formidable.
Claire Fage, alors en conclusion, j'imagine que ce reportage va faire sourire les grands négociants qui écoutent vos chroniques matières premières.
Oui,
qui
mais en même
RFI.
Temps, c'est moi, un de mes souvenirs les plus émouvants quand je suis allée voir les plantations de cacao en Côte d'Ivoire, c'était la fête nationale du cacao et du chocolat à Abidjan. C'est que j'ai rencontré un planteur qui visitait l'exposition et qui goûtait pour la première fois de sa vie, il avait 50 ans, du chocolat. Donc effectivement, le marché, il est balbutiant. Le marché de masse, ce sont les berlingots, alors ou de poudre ou de crème à base de chocolat. Ce n'est pas ce qu'il y a de meilleur, mais ce sont les produits pour les enfants. Et puis, il y a quand même un marché de niche pour le chocolat de qualité. J'ai goûté de très bons chocolats au gingembre à Abidjan et qui étaient fabriqués pour la population locale, enfin en tout cas pour le marché local.
Ouais. Et vous le dites, effectivement, c'est intéressant. C'est toute la différence avec le café, où les planteurs de café font tous rôtir du café, je n'emploie pas le bon mot, mais en tout cas, consomment du café eux-mêmes. Alors, ce n'est pas le cas du chocolat, parce que c'est évidemment trop compliqué de le transformer quand on est planteur.
Oui, il y a très très peu de planteurs qui consomment du chocolat, ça c'est sûr. C'est quand même un comble, on va dire, mais c'est le cas. Donc, cette transformation locale, je pense qu'elle a vraiment intérêt à se développer, mais ça n'est pas la panacée non plus, puisqu'on a des productions de masse en Côte d'Ivoire et au Ghana qui font vivre, il faut le rappeler quand même. Donc, il y a 1 million de planteurs, de petits planteurs en Côte d'Ivoire, ça veut dire quasiment 10 millions de personnes en Côte d'Ivoire.
Alors, le virage à prendre, alors,
donc,
finalement
je pense qu'il va être très, très lent, ce virage. C'est-à-dire qu'il va falloir baisser peut-être le volume de production pour pouvoir augmenter les prix. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être moins de planteurs en Côte d'Ivoire, qu'ils auront des plantations suffisantes ou en tout cas des rendements et des volumes suffisants pour pouvoir en vivre. Peut-être qu'il va falloir arracher des plantations parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un fléau qui commence à dévaster les plantations d'Afrique de l'Ouest, c'est le swollen shoot. C'est un virus qui tue les cacaoyers et peut-être que finalement c'est triste, mais ça rendra peut-être service à la production ouest-africaine parce que là, il faut le reconnaître, on est dans une période d'excédent et toute cette crainte qu'on a eue au milieu des années 2000 de manquer de chocolat, ça a été de la communication peut-être davantage des chocolatiers et l'industrie du cacao pour pousser à produire et en fait, on voit le revers de la médaille aujourd'hui.
Merci infiniment à vous Claire Fage, votre dernière chronique cacao, c'était il y a 2 jours, à retrouver évidemment sur RFI.fr. Merci à vous Michel Barrel, vous publiez Du cacao au chocolat, l'épopée d'une gourmandise, extrêmement instructif, c'est publié chez Kouaé Édition. Et merci à vous Christophe Eberhardt, cofondateur d'Éthicable, coopérative spécialisée dans la vente de produits bio issus du commerce équitable. Demain, 7 milliards de voisins, notre émission sera consacrée aux Ouïghours en Chine, un peuple soumis à un régime totalitaire sous très très haute surveillance numérique avec des emprisonnements massifs. On se quitte avec un champion du coupé décalé, Serge Benoît. Milliards de voisins, c'est presque fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe qui prépare chaque jour cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Didier Cherouz. N'oubliez pas évidemment que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement et nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. À demain.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Jean-Claude